Salut, bienvenue à toutes et à tous, c'est l'eau à la bouche de février 2011, proposé et présenté par Mathieu Tellen et Adrien Delgrange. L'eau à la bouche, une émission diffusée sur Radio Pays d'Hérault, Radio Larzac, Divergence FM et Radio Clapas. Ce mois-ci, nous nous intéresserons aux 20 ans de la MDE, la Maison départementale de l'environnement du Conseil général de l'Hérault, située à Prades-le-Lez, avec notamment ce thème les patrimoines du domaine de Restinclière à l'occasion des 20 ans de la MDE, entretien avec Florence Richard. En seconde partie, des cours de botanique du réseau Tella Botanica avec Marie Picard, animatrice, Pierre Bonnet, botaniste à l'INRA et Christophe Giraud, ingénieur agronome, un reportage de Mathieu Tellen. Quant à la musique, ce mois-ci, Pierre Diaz et le trio Zéphyr sont à l'honneur à travers cet album qui vient de paraître intitulé « Jour de vent ». Pierre Diaz au saxophone et à la voix, Delphine Chomel au violon et à la voix, Marion Diac alto et voix et Claire Mingui au violoncelle. Le trio Zéphyr et Pierre Diaz à écouter tout au long de cette émission. Bienvenue à tous, c'est l'eau à la bouche.
La Maison départementale de l'environnement du Conseil général de l'Hérault, du département de l'Hérault, va fêter ses 20 ans, 2011-1991, 20 ans d'existence de cette Maison départementale de l'environnement. Pour en parler, je suis dans le jardin de cette Maison départementale de l'environnement, ici sur le domaine de Restinclière, commune de Prades-le-Lez, et je suis accompagné de Florence Richard, qui va nous parler tout à l'heure d'un appel à projet, un appel à une participation à une œuvre artistique autour du thème « Les patrimoines du domaine de Restinclière », mais ça on en parlera tout à l'heure. Pour l'heure, nous allons discuter de l'histoire de cette Maison départementale de l'environnement. 20 ans d'existence, quelques dates clés ou les grandes étapes de cette Maison départementale de l'environnement du Conseil général du département de l'Hérault.
Alors, déjà au début des années 90, le département a acheté le domaine de Restinclière. Tout d'abord, je pourrais parler d'un des premiers directeurs de l'agence foncière qui s'appelait Christophe Allègre, qui s'appelle toujours Christophe Allègre, qui a contribué à l'achat du domaine de Restinclière grâce à la fameuse taxe verte. Voilà, Christophe Allègre a démarré des études sur le site, il a tracé les grandes orientations du développement du site, notamment le projet agroforesterie, ouverture auprès des associations telles que les écologistes de Lozière. Il s'occupe également du réseau vert qui traverse toujours le domaine. C'est un chemin de randonnée qui relie tous les domaines départementaux et héraultais. Année 92-94 s'installe le premier directeur de la maison départementale de l'environnement, Monsieur Frédéric Bourguet, donc qui était en place avec à son arrivée deux ingénieurs environnement qui étudiaient le domaine, notamment la mise en place de panneaux explicatifs des différents milieux qui composent le domaine, la répulsive, la garrigue, la forêt, etc., le parc. Donc Frédéric Bourguet, lui, il a contribué notamment au développement du partenariat avec la continuité du partenariat avec l'association des écologistes de Lozière, ainsi que le groupement de défense sanitaire apicole qui accueillait les scolaires, les collégiens qui bénéficiaient de sorties scientifiques, faune, flore, géologie ou du domaine, hein, ainsi qu'une connaissance approfondie des abeilles, des produits de la ruche, fabrication du miel, voilà. Et puis chaque élève déjà partait avec son petit pot de miel du domaine. Nous avons démarré à cette époque un cycle de conférences dans le cadre de la fête de la science et le début, les prémices d'une programmation d'expositions artistiques et scientifiques. Donc Fred Bourguet, effectivement, a été le précurseur de la priorisation des travaux du bâtiment qui était en très très mauvais état. Il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait même pas d'eau du tout. Les plafonds s'écroulaient, le plancher craquait à chaque pas, à se demander tous les jours si on n'allait pas traverser un étage. Voilà, donc à cette époque, j'ai un souvenir qu'on avait organisé une grande fête agricole. Une découverte originale des vieux outils, on avait exposé des charrettes, du matériel de forgeron, une manifestation qui a tout de même attiré des milliers de personnes, c'était tout nouveau, hein, notamment les Montpelliérains. Voilà, Fred Bourguet a contribué à une large communication du domaine de Restinquières afin d'attirer le maximum de personnes curieuses du développement de cette maison départementale de l'environnement ainsi que du domaine. Presque unique au niveau national à cette époque. Après, s'installe dans le fauteuil de directeur de la MDE, Maison départementale de l'environnement, M. Jacques Patry, qui lui a largement contribué avec son équipe à l'ouverture du domaine auprès du grand public, continuité, développement des accueils pédagogiques auprès des scolaires, mise en place des conventions avec les écologistes de Lozière, l'association Cap Environnement, GDSA. Ce sont des noms qui doivent vous dire, que vous devez entendre forcément. L'inspection d'académie aussi, le rectorat. Les conventions avec l'INRA pour la continuité du projet agroforesterie et concrétisation de l'agroforesterie. Donc, dans la continuité, on a créé également un réseau de centres scientifiques et techniques avec 5 centres départementaux, dont il y en a qui n'existent plus. Il y avait la Maison du Fleuve, le CBNA, le CEREMER, Géospace et la MDE. Donc, ces centres scientifiques et techniques éduquaient, sensibilisaient le public sur leurs sciences, la géologie, création de la terre, l'espace, gestion des déchets, etc. On avait sorti aussi les premiers documents d'information générale pour le grand public avec la collaboration des écologistes de Lozière. Les arbres de Restinquières, les oiseaux de Restinquières, l'eau de Restinquières, que nous avons encore. Hein, donc le public peut venir rechercher ces documents qui arborent tous les milieux du domaine, ainsi que les oiseaux, hein, la faune. Il y a les insectes aussi de Restinquières qui sont encore distribués donc, aujourd'hui. Au grand public. Puis il y avait d'autres projets qui se sont concrétisés ces deux dernières années, la restauration d'une oliveraie par exemple. Il y a un petit moment la création d'une mare pédagogique, l'animation aussi autour du jardin potager tous les vendredis après-midi. Voilà, l'ouverture du domaine lors des journées du patrimoine, les visites guidées du domaine avec l'association des Amis des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon, Prat et Dicom-Rousticom. Les premières fêtes de l'environnement qui coïncidaient avec la Semaine nationale de l'environnement début juin. Le nettoyage de printemps du Lez et du Lérou avec les scolaires aussi. La restauration des murs en pierre sèche, enfin, pas mal de choses ont évolué et on a mis en place et on continue toujours, hein, puisque c'est en 94 qu'a vraiment démarré le grand chantier de rénovation du château. dans le cadre de la gestion du domaine, hein, les premières réunions avec les utilisateurs du domaine qui ont été mises en place. Donc, étaient concertés les randonneurs, les vététistes, les chasseurs, les écologistes, les observateurs d'oiseaux, l'INRA, pour l'agroforesterie, les agriculteurs, pour définir les zones à protéger, les zones affectées au public, les zones de culture ou d'agroforesterie. Puis, en 95, arrive Jacques Patry, un autre directeur de la Maison de l'Environnement, donc qui, lui, a mis en place une programmation annuelle d'éducation et de sensibilisation à l'environnement auprès du tout public, avec des cycles d'exposition continue hein, de par semestre, de conférences et de sorties sur le domaine, mais également à l'extérieur du domaine. Donc c'est vraiment, l'année 95, c'est l'année où a vraiment démarré la programmation, ce cycle d'exposition, conférences, sorties, etc. Au départ, c'était plutôt naturaliste, hein, on parlait d'ornithologie, des reptiles, des batraciens, géologie, flore, les insectes. Puis, plus environnemental, avec l'arrivée de Natacha Agnon, notre nouvelle, qui est directrice depuis bien une dizaine d'années, actuellement, où on a développé dans ce cycle de programmation les déchets, la consommation, les éco-produits, l'eau, les énergies fossiles. On essayait de voir, dans le cadre du développement durable, de sensibiliser le public et notamment les scolaires à tous ces problèmes-là hein, qui nous incombent tous les jours. Hein. Là, nous sommes dans la continuité, nous sommes en 2011. Hein, effectivement, ça fait maintenant 20 ans que concrètement, la Maison de l'Environnement fait 20 ans qu'il y a cette continuité avec beaucoup plus de personnel et des personnels qualifiés. De 3, nous nous retrouvons maintenant à 17. Nous avons des agents techniques, nous avons une secrétaire, nous avons une documentaliste, un centre de ressources.
On vient d'entendre là l'histoire de cette maison départementale de l'environnement. Tu me disais tout à l'heure, avant de faire cette interview, que toi, tu es arrivé ici, sur le domaine de Restinclière, dans cette MDE, à partir de 1994, donc dans les débuts de cette maison départementale de l'environnement. Sur ton parcours personnel, tu aurais envie de décrire de quelle manière cette évolution de cet organisme ou structure du département de l'Hérault.
Le but c'est d'éduquer, sensibiliser le tout public, les scolaires hein, aux problèmes, aux notions de tous les sujets qui nous touchent actuellement hein, sur consommation, les énergies renouvelables, les déchets et puis bon après le côté naturaliste. La biodiversité est-elle en danger? Et l'évolution, effectivement, moi je l'ai ressentie depuis toutes ces années, puisque en fonction des moyens aussi, hein, en fonction des moyens financiers, techniques, hein, ça a aussi évolué et on a pu mettre en place pas mal, enfin on a pu concrétiser tous les projets les prémices des projets des premiers directeurs. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de monde sur le domaine et beaucoup plus de scolaires hein, qui viennent en animation sur le domaine. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, j'ai comme un ressenti que la population se sent responsable. L'environnement, c'est un mot dont tout le monde parle et se sent responsable.
Des équipes qui se sont étoffées, tu disais à l'instant que tu as eu l'impression que c'est une maison qui a eu suffisamment de moyens pour pouvoir mettre en œuvre les projets qu'elle souhaitait voir aboutir. Donc 2011, on le disait tout à l'heure, 20 ans d'existence, c'est les 20 ans de la maison départementale de l'environnement. Tu parlais à l'instant de responsabilité de la part des habitants de cette région. Et bien, il va encore être question de responsabilité puisque vous lancez un appel à projet ou du moins vous appelez tout un chacun à participer à la réalisation d'une œuvre artistique autour du thème « Les patrimoines du domaine de Restinclière ». Il s'agit, dans les grandes lignes, d'apporter du matériel photographique pour pouvoir constituer une exposition qui aura lieu ici durant l'été sur le domaine de Restinclière. Comment est-ce que tu décrirais voilà, cet appel à projet artistique ?
Cet appel à projet artistique, c'est-à-dire que pour une première fois, sera exposé cet été des œuvres artistiques autour d'une thématique qui est le patrimoine du domaine de Restinclière. Alors patrimoine, c'est naturel, culturel, bâti. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont fréquenté ce domaine ou qui le fréquentent encore, s'ils le souhaitent, peuvent amener, exposer leurs œuvres. Alors, tous les modes d'expression artistique et tous les supports sont acceptés. Hein. Ça peut être photo, graphie, peinture, sculpture, dessin, maquette, aquarelle, des vidéos. Voilà, tous les modes d'expression artistique sont acceptés. Donc, c'est une façon aussi que les gens se sentent que le domaine ou la M2 leur appartienne un peu aussi, hein, qu'ils puissent amener leurs amis, leur famille cet été, voir leurs œuvres autour de cette thématique.
Voilà, donc la M2E vous propose de participer à cet anniversaire en réalisant une œuvre artistique autour du thème « Les patrimoines du domaine de Restinclière ». À qui s'adresse cet appel ? Eh bien, un peu à tout le monde. On va dire les enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes. On vous invite toutes et tous à aller attraper vos plumes, pinceaux, caméras, appareils photo. Tous les modes d'expression artistique et tous les supports seront acceptés, que ce soit de la photo, de la peinture, sculpture, dessin, maquette, aquarelle, macramé, vidéo, collage, pâte à modeler, etc. On va dire que vous avez carte blanche, entre guillemets, un peu pour aller choisir de quelle manière exposer ou représenter les patrimoines du domaine de Restinclière. Pour participer à cet appel à projet, eh bien c'est assez simple. Il suffit entre le lundi 17 janvier et le vendredi 15 avril d'envoyer un mail à Florence Richard. Donc je vais vous donner son adresse mail. C'est flrichard@cg34.fr. Vous lui envoyez 5 photos au maximum de l'œuvre, prises sous différents angles si nécessaire, un format JPEG, poids maximum des photos 300 kg. Vous joignez à tout cela vos noms, âge, adresse, mail, numéro de téléphone, auteur de l'œuvre et son tuteur en cas d'artiste mineur. Pour tout renseignement, il y a également un numéro de téléphone, c'est le 04 99 62 09 44. Le pré-jury composé du personnel de la MDE se réunira à partir du mois de mai pour retenir une cinquantaine d'œuvres et les participants retenus ou non retenus seront avertis par mail sous 15 jours. Ceux qui seront retenus devront donc, entre les jeudis 30 juin et vendredi 1er juillet, amener leurs œuvres ici à la maison départementale de l'environnement au domaine de Restinclière, commune de Prades-le-Lez. Alors je précise juste qu'il faut amener son œuvre, quoi, pour celles et ceux qui auront la chance d'être retenus, il faudra amener son œuvre avec son socle ou du moins le cadre, enfin la manière dans laquelle vous souhaitez que votre œuvre soit exposée. Tout cela aboutira à une exposition qui se déroulera cet été ici sur le domaine de Restinclière. Ce sera du dimanche 10 juillet au dimanche 4 septembre, ça c'est pour l'exposition des œuvres retenues. Et puis au mois d'août, un jury de professionnels désignera, on va dire, les œuvres gagnantes, les plus belles œuvres parmi celles qui ont été retenues. Et une remise des prix est prévue début septembre. Voilà pour ce qu'il en est de cet appel à projet, appel à participer à ces 20 ans de la Maison départementale de l'environnement autour de la création d'œuvres artistiques liées au thème les patrimoines du domaine de Restinclière. Je vous redonne les deux adresses pour avoir plus d'informations si vous souhaitez en avoir. Donc une adresse mail flrichard@cg34.fr ou bien un numéro de téléphone, c'est le 04 99 62 09 44 ou bien sinon vous avez sur le site internet soit celui du département de l'Hérault, soit directement celui de la maison départementale de l'environnement. Une dernière question, cet appel à projet est une des manières de fêter cet anniversaire. Y aura-t-il d'autres rendez-vous au cours de cette année 2011 qui seront liés à cet anniversaire des 20 ans de la MDE ?
Oui, donc notamment en programmation d'expositions et de conférences, de sorties d'animation. On reprend depuis 95 tous les dossiers toutes les expositions qu'on a exposées, et on reprend, si vous voulez, en large toutes les thématiques depuis 20 ans pour toute l'année 2011. On aura Monsieur Balesta qui va animer une conférence le dimanche 29 ou 30 juin, je ne sais plus. Monsieur Clément, un paysagiste connu et reconnu dans le monde entier, qui effectuera aussi une conférence au mois de février, fin février. Et puis peut-être qu'on aura... On aura le plaisir d'accueillir Jean-Marie Pelt en octobre 2011. Pour la fête de l'environnement, il y a tout des artistes, une huitaine d'artistes qui vont exposer leurs œuvres du land art sur le domaine. Les promeneurs pourront voir des œuvres artistiques un peu surprenante sur le domaine, tout un week-end de festivités avec de la musique, avec des projections du patrimoine historique sur la façade du château, plein d'ateliers, oui, effectivement, un festival, un genre de festival de films pendant les animations scolaires du mois d'avril. Ça sera la première semaine de mai, il me semble, avec des contes, des ateliers famille, hein, pas forcément que des enfants, et qui se termineront le soir à partir de 18h30 par des films, des films animaliers. Voilà.
Beaucoup de choses donc à vivre et à suivre pour fêter ensemble durant cette année 2011 les 20 ans de la maison départementale de l'environnement du conseil général du département de l'Hérault, ici domaine de Restinclière, commune de Prades-le-Lez. Merci Florence Richard, et puis bonne 20e année.
Merci beaucoup, merci à toi.
C'était Florence Richard, animatrice au sein de la Maison départementale de l'environnement, au micro de Mathieu Tellen. Le trio Zéphyr et Pierre Diaz nous accompagnent, et juste après nous retrouverons des cours de botanique proposés par le réseau Tella Botanica.
Je vous propose à présent de découvrir le réseau Tella Botanica, le réseau de la botanique francophone. Ce réseau organise notamment régulièrement des cours de botanique ou des séries de cours sur différentes thématiques. Là, il s'agissait de botanique, connaître les plantes à un niveau intermédiaire. C'est une série de cours qui sont proposés de janvier à juin 2011. L'occasion de découvrir ce réseau de la botanique francophone, Tella Botanica, je suis avec Marie Picard, qui est animatrice réseau. Une présentation du réseau Tella Botanica.
Bonjour, donc Tella Botanica, c'est un réseau de botanistes francophones. C'est un réseau qui a été créé il y a une dizaine d'années, qui a démarré au départ avec une liste Yahoo. Les objectifs du réseau, c'est vraiment de rassembler les botanistes, d'organiser, de collecter toutes les données flore qui existent, et d'essayer surtout de monter des projets collaboratifs, de faire échanger les botanistes ensemble. Donc on va dire, pour résumer, que c'est une sorte de Wikipédia au niveau botanique. Donc c'est-à-dire que les botanistes peuvent venir pour s'informer, tout simplement, trouver de l'information. Ils peuvent aussi échanger via les forums, et ils peuvent aussi coopérer, c'est-à-dire j'ai un projet botanique, j'ai envie de faire une base de données, j'ai envie de créer une flore informatisée. Tous les projets sont possibles. Après, nous, on essaye de mettre à disposition notre compétences en termes d'animation de réseau et d'informatique pour que justement ces projets puissent se réaliser.
Est-ce que vous travaillez uniquement sur du matériel informatique, sur la base de données, ou bien est-ce que les outils que vous proposez de mettre à disposition des botanistes ou amateurs amoureux des plantes, des fleurs, que sais-je, est-ce que vous proposez aussi d'autres supports ?
Oui, bah, les cours de botanique, par exemple, en sont un exemple. Ça, c'est une initiative qui a émergé au sein du réseau et qui s'est concrétisée par des cours à Montpellier. Il faut juste dire que le réseau a démarré historiquement à Montpellier. Il y a une forte communauté de télabotanistes dans le sud, et plus particulièrement en Languedoc-Roussillon.
C'est un réseau qui compte combien d'adhérents ?
Alors, actuellement, il y a 13 500 membres. Donc on dit que c'est francophone, il y a 80% des membres du réseau qui sont issus de France métropolitaine, et il y a aussi beaucoup de membres du réseau d'Afrique du Nord, issus d'Afrique du Nord, des dom-tom, et même après de tous les pays francophones.
Si c'est pas indiscret, c'est un réseau qui vit avec quels moyens ? Est-ce que c'est chacun qui alimente le réseau de manière financière, ou bien est-ce que vous avez droit à des financements ou des choses comme ça ?
On a des subventions publiques, on a des financements privés et publics. Après, on fait aussi appel aux membres du réseau pour s'assurer une indépendance. Mais ça représente un faible pourcentage des ressources de l'association, en tout cas.
On parlait de moyens informatiques, donc je suppose que l'essentiel, c'est d'avoir un site internet.
Voilà. Et aussi, ce qui est important, c'est que, et ce qui est important pour dans la philosophie de Tella Botanica, c'est que toutes les données sont libre droit. Tous les logiciels qui sont développés sont sous licence Creative Commons.
Alors, le site internet, c'est tella-botanica.org. C'est un réseau qui s'adresse à toutes et à tous. Vous vous intéressez aux plantes et souhaitez approfondir vos connaissances pratiques et théoriques en botanique. Vous venez explorer la nature en compagnie de botanistes reconnus qui sauront vous accompagner dans la découverte du monde passionnant des végétaux. C'est ainsi qu'était introduite cette série de cours de botanique qui s'adresse à des gens, on va dire, d'un niveau intermédiaire. Tout cela a démarré au mois de janvier pour se poursuivre jusqu'au mois de juin 2011. Donc une série de cours de botanique proposés par le réseau Tella Botanica. Pourquoi, en dehors de tout ce qui est outils informatiques, être parti sur l'envie de proposer des cours de botanique à tout un chacun ?
Un des objectifs de Tella Botanica, c'est de faire partager la passion de la botanique au plus grand nombre. On a un réseau d'associations comme les écologistes de Lozière, la Pieux, mais il y a aussi l'Université de Montpellier 2 qui participe à ces cours de botanique. Le réseau, on va dire, a permis de mettre en place ces cours de botanique. Mais après, l'idée, c'est que ça vive sur le terrain, bien évidemment, la botanique. Et le réseau vit à travers les associations locales de terrain. Nous, on essaye juste de mettre à disposition les outils, mais ça vit bien sûr avant tout sur le terrain, la botanique.
Alors, la durée de la formation, c'est en moyenne autour de 20 heures. Ce sont des sessions de 2 heures qui se déroulent ici au parc zoologique de Lunaret. Le nombre de participants est limité, je suppose, ça c'est volontaire, à 35. Le tarif, c'est 70€ pour les 11 séances. C'est gratuit pour les étudiants et les chômeurs. Pour celles et ceux qui souhaiteraient participer, rejoindre ces formations ou ces séries de cours qui sont proposées par le réseau Tella Botanica, de quelle manière est-ce qu'il faut s'y prendre ?
Alors, pour l'instant, donc, pour cette année, les cours sont complets. On a eu pas mal de demandes pour l'année prochaine. Donc, des cours devraient se remettre en place à partir du mois de septembre. Là, il s'agissait d'une première année aussi d'expérimentation. Donc, on essaye de revoir comment améliorer les choses. Mais en tout cas, les choses devraient reprendre à partir de septembre, peut-être pas sous cette forme, à voir comment on améliore le dispositif des cours.
Pour prendre contact avec le réseau Tella Botanica, comment est-ce que l'on fait ?
Ben, vous pouvez contacter Tella Botanica en envoyant un mail à accueil@tella-botanica.org.
Merci Marie.
De rien. Merci.
Pour débuter cette série de cours botaniques proposés par le réseau Tella Botanica, l'ensemble des participants avait rendez-vous devant la serre amazonienne de la ville de Montpellier. Pour en parler, je suis avec Pierre Bonnet, qui est botaniste à l'INRA, ainsi que Christophe Giraud, qui est lui ingénieur agronome, doctorant au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonsoir à vous deux. Tout d'abord, un petit mot sur votre parcours à l'un et à l'autre. Pierre Bonnet, botaniste à l'INRA.
Bonjour. Donc, concernant mon parcours, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à l'identification des plantes, principalement tropicales, dans diverses régions du monde. Et j'ai effectué mon doctorat sur l'identification et le développement d'espèces orchidées asiatiques.
Et pour toi, Christophe ?
Donc, Christophe Giraud. Donc, moi, pour ma part, je suis ingénieur agronome, donc issu de l'Agro Montpellier, et j'ai ensuite plongé par un doctorat que je viens de soutenir le mois dernier, donc en écologie tropicale, sur la théorie des refuges en Guyane, donc avec une thématique assez proche de celle que nous allons voir aujourd'hui dans le cadre de la visite de la serre.
Alors, si je lis le prospectus qui présentait, introduisait cette série de cours de botanique proposés par Tella Botanica, il s'agit plus ou moins ce soir, de parcourir la diversité des plantes dans le monde à partir de la flore tropicale.
Oui, c'est à peu près ça. Donc c'est un cours inauguratif et donc nous allons faire une visite de la serre amazonienne et à partir de cette visite, essayer de pointer du doigt la diversité dans le milieu tropical et nous montrer que les forêts tropicales ne sont pas un milieu unique et homogène, mais d'une grande diversité de milieux et de conditions écologiques. Donc c'est ce que nous allons essayer de montrer donc, à travers une approche relativement pour des personnes assez novices quand même.
Est-ce qu'il est possible de faire une présentation de cette serre amazonienne ?
Donc il y a différents types de milieux dans cette serre amazonienne. Donc le parcours s'échelonne depuis en fait l'embouchure jusque donc à la source. Donc nous allons traverser différents types de milieux qui sont la mangrove. Donc ensuite nous verrons les forêts de type forêt inondée, puis les forêts de terre ferme avant vers donc la fin de passer dans des biotopes de type forêt de montagne, ce qui permettra d'appréhender en fait un peu l'intégralité des types de forêts existants le long du bassin amazonien.
À travers le parcours de ces différents paysages, quels sont les points que vous allez aborder durant ce cours ?
Pour ma part, je vais principalement donc apporter quelques points d'écologie tropicale, donc de montrer un peu la diversité de la forêt tropicale, donc qui n'a rien à voir avec la diversité d'une forêt tempérée. Également montrer donc les différentes formes que peuvent prendre les arbres, notamment en matière de tronc. Également de montrer quelles sont les contraintes existantes dans la forêt tropicale pour à la fois les arbres mais également les plantes du sous-bois et de montrer comment les espèces peuvent essayer de répondre à ces contraintes et se développer harmonieusement et de manière optimale pour elles.
Un exemple d'adaptation d'une espèce soit végétale ou animale à son milieu ?
Comme exemple, donc nous avons par exemple pour des espèces qui vont pousser en milieu inondé, certaines espèces vont présenter des racines de type ce que l'on appelle des racines échasses, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas un tronc unique qui ira jusque dans le sol, mais différentes petites racines partant de ce tronc et permettant d'ancrer de manière plus solide l'arbre ou le palmier dans le sol. On peut également citer les plantes épiphytes qui vont pousser dans les arbres et qui vont donc, par exemple, pour certaines espèces, accumuler de l'eau à la base de leurs feuilles. Et on sait par exemple que certaines espèces animales, notamment des grenouilles, dépendent totalement de ces plantes pour vivre puisqu'elles vont effectuer leur cycle entier depuis le stade têtard jusqu'à la reproduction au sein de l'eau accumulée dans ces plantes.
Pierre Bonnet, pour ce qu'il s'agit de ce que tu vas présenter ce soir, on peut en dire quoi ?
Je vais avoir l'occasion de présenter on va dire un certain nombre de structures morphologiques qui s'observent chez donc, les plantes d'Amazonie. J'ai assez eu peu l'occasion de découvrir cette flore, mais ce qui est intéressant de voir, c'est les convergences de formes qu'il peut y avoir de par les plantes à travers les tropiques et leur adaptation, comme l'a été exposé, à différents milieux, à différentes conditions de développement, qu'on soit en Australie, en Asie, en Afrique ou en Amazonie. Donc je ne me focaliserai pas sur les spécificités amazoniennes, mais je serai heureux de partager en fait la connaissance que je peux avoir sur les plantes tropicales dans le monde.
Tu parles de convergence de formes, un exemple ?
Par exemple, chez les plantes épiphytes, donc qui se développent sur différents supports que sont les arbres, on observe une forme des feuilles qui peuvent par exemple être de forme cylindrique, de la forme d'un doigt, dans des conditions où il y a une forte exposition au soleil, un fort assèchement dû à des vents généralement secs sur les flores des contreforts des montagnes par exemple. Et ceci s'observe aussi bien en Asie sur des genres asiatiques que des genres américains par exemple, des genres de plantes américaines.
Comment est-ce que vous avez appréhendé ce type d'échange avec des participants qui sont intéressés de manière générale par la botanique?
Déjà ce soir nous allons surtout nous intéresser à des questionnements d'écologie, donc pas forcément de la botanique au sens pas de l'identification des plantes, parce que l'identification des plantes en milieu tropical est quelque chose d'extrêmement complexe, même pour les personnes qui sont expertes dans le domaine, et ne sera absolument pas accessible dans le cadre d'une visite comme nous allons la faire. Mais les questions d'écologie tropicale donc, qui peuvent être abordées au sein de ces cours vont recouper pour une part des questions d'écologie qui seront abordées tout au long des cours ou qui ont déjà été abordées dans le cadre des cours du premier semestre. Donc j'espère que nous arriverons à faire passer ces infos et ce message de manière la plus pédagogique possible.
Même question pour toi Pierre, lorsque l'on vient te voir et que l'on te dit est-ce que tu souhaiterais participer à un cours qui va s'adresser à des gens qui sont intéressés par la botanique, de quelle manière tu as entre guillemets travaillé ou envisagé de présenter la chose?
Je pense que s'intéresser aux plantes, c'est s'intéresser à la sensation que nous procure leur observation, donc par l'enthousiasme, par leur originalité. Et donc j'aborderai la question le plus souvent par l'illustration de phénomènes sur des structures de fleurs par exemple qui peuvent être assez remarquables, des formes de feuilles ou des couleurs, des adaptations particulières qui nous renvoient vers des phénomènes on va dire écologiques et qui nous permettent d'aborder cette flore sur des spécificités qu'on a l'occasion d'observer, ne serait-ce qu'en regardant la flore méditerranéenne par exemple.
Bien, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans la serre amazonienne et puis on vous retrouve au cours de ce cours de botanique. Merci à vous deux.
Vous écoutez L'eau à la bouche, émission mensuelle diffusée sur RPH, Radio Larzac, Radio Clapas et Divergence FM.
Très importante. Et du coup, pendant la saison des pluies, vous allez avoir une très forte crue de la plupart des rivières et des ruisseaux. Et donc les espèces de forêts type forêt de flat, forêt inondée, ou également les forêts ripicoles, qui sont une forêt qu'on va trouver le long des cours d'eau, vont être inondées et avoir de l'eau parfois jusqu'à 40 cm, voire 1 mètre de haut sur le tronc. Donc les espèces qui vont y pousser sont des espèces qui ne seront pas sensibles notamment aux asphyxies racinaires quand il y a trop d'eau. Donc ça, ça fait partie. Donc ça, ces différents types de milieux, ça va forcément obliger certaines espèces. C'est-à-dire certaines espèces vont pouvoir pousser dans les forêts inondées et d'autres ne vont pas pouvoir pousser dans les forêts inondées et vont devoir se réfugier dans des forêts de type forêt de terre ferme où les contraintes liées à l'augmentation aux pluies seront moins importantes. Donc dans la forêt de terre ferme, vous allez avoir des espèces qui vont pouvoir développer des troncs assez importants, parfois des troncs jusqu'à, oui je disais tout à l'heure, 3 mètres de diamètre, et quand ça supporte un arbre qui culmine à 50 ou 60 mètres, c'est quelque chose de vraiment costaud et très impressionnant. Donc pour arriver à soutenir, parce qu'on imagine que si l'arbre il fait 60 mètres de haut, la couronne elle va être extrêmement importante. Il faut savoir qu'il y a du vent en forêt tropicale, et quand vous avez un vent même qui est faible au niveau du sol, au niveau de la canopée, l'amplitude de balancier généré par le vent, pour l'avoir vu en cas de fort coup de vent annonciateur d'un orage, c'est particulièrement impressionnant. Vous avez des arbres qui vont se balancer de 10 à 15 mètres comme ça. Quand vous êtes dessous, vous espérez que l'arbre ne va pas choisir ce moment pour tomber, parce que là ça le ferait pas du tout, ça serait assez mal. Et donc pour soutenir le tronc, pour éviter notamment qu'il y ait un balancier trop fort et que ça déracine par exemple l'arbre ou que ça le casse, beaucoup d'espèces vont présenter des structures très particulières pour renforcer la prise dans le sol. Alors je vous ai parlé des racines des chasses, surtout pour les milieux type milieux tropicaux, milieux humides, inondés. Il y a également beaucoup d'espèces qui vont développer ce qu'on appelle des contreforts. Donc si vous voyez dans les églises, vous voyez ce que c'est que les contreforts, bah, c'est le même principe en fait. L'idée, c'est de répartir le poids, les charges en termes de poids, qu'elles ne s'exercent pas uniquement sur le seul tronc, mais elles vont s'exercer sur tous les contreforts qui vont pousser. Et j'ai déjà observé des espèces d'arbres qui présentaient des contreforts jusqu'à 10-15 mètres de haut. Donc ça vous donne une idée de la taille de l'arbre. En l'occurrence, il faisait 55 ou 60 mètres. Oui. Donc il y en a qui ont une structure de tronc, et je crois également qu'il y en a qui ont des structures de type racine. Des fois il est assez difficile de faire la différence sur les arbres tropicaux entre la racine et le tronc, parce que vous avez beaucoup d'espèces qui ont des racines aériennes, donc ça peut être parfois assez problématique. D'autres structures qui existent quand vous n'avez pas de contrefort, c'est que vous avez de nombreuses espèces d'arbres qui présentent ce qu'on appelle des empattements, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus larges à la base. Et donc ça permet d'assurer également un meilleur ancrage dans le sol. Donc ça, c'est pour tout ce qui est contrainte liée à la hauteur et à l'ancrage dans le sol. Quelque chose qui est très important, donc là hein, si on redescend au niveau du sous-sol, ça va être les contraintes liées quand on est une plante dans le sous-sol d'une forêt tropicale, comment est-ce qu'on se développe? Parce que on doit faire sa photosynthèse. Pour faire la photosynthèse, il faut de la lumière. Et la lumière, il n'y en a pas souvent, et quand il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Quand par une journée ensoleillée, vous promenez dans un sous-bois de forêt tropicale, vous allez voir des taches de lumière par endroit. C'est très peu, et ça va énormément conditionner donc la survie des plantes et la bataille des plantes pour accéder au plus de lumière possible. Donc ça va jouer, ça va se retrouver par exemple dans l'architecture des feuilles. Comment est-ce que les feuilles vont se mettre en place? Bah, par exemple, si vous regardez le philodendron là, qui est juste derrière, il est assez bien pour ça. Vous voyez que les feuilles ont une disposition qui minimise le recouvrement. C'est-à-dire que la plupart des feuilles, cette feuille-là n'est quasiment pas recouverte par celle-là. Donc ça permet de maximiser l'accès à la lumière. Parce qu'on imagine que si la plante poussait avec toutes les feuilles les unes au-dessus des autres, bah, ça serait comme si elle avait uniquement une feuille. Vous avez derrière une plante qui, je pense, est un costus, qui illustre parfaitement ceci. Donc vous avez une disposition des feuilles, donc c'est celui qui est grimpant là, vous le voyez ? Une disposition des feuilles en spirale, ce qui permet que si on a une vue de dessus, eh ben, on observe en fait un cylindre de verre qui correspond à la disposition de toutes les feuilles et ça maximise l'accès à la lumière. Et donc, il y a énormément de stratégies qui sont mises en place par toutes les plantes pour se développer dans le sous-bois. Donc, si vous connaissez, donc toujours Patrick Blanc a écrit un livre qui s'appelle « Être plante à l'ombre des forêts tropicales », si je ne me trompe pas, qui vous présente un grand nombre de stratégies existantes. Donc, j'ai pas d'intérêt particulier chez Patrick Blanc, mais c'est l'une des personnes qui a le plus travaillé sur la forêt tropicale, notamment la forêt asiatique. Et c'est une des rares personnes qui a théorisé et qui a vulgarisé également les connaissances qu'il avait dans ce domaine.
Imaginez que les animaux ont une autre perception des plantes que nous. Et donc, ces motifs peuvent, dans certains cas, être de vraies cibles qui vont faire office de récepteurs pour attirer l'attention d'un insecte, d'un oiseau ou d'un mammifère. On connaît assez mal finalement les interactions entre plantes et animaux dans les milieux tropicaux parce que c'est tellement riche qu'on a déjà du mal à en savoir un peu sur une espèce quand en plus il faut imaginer toutes les interactions possibles de cette espèce avec son milieu, c'est extrêmement difficile. Ici on a une autre plante où vous voyez on a une forme de racine échasse également, donc c'est une plante qui est très très grosse à la base. Je sais pas si vous voyez le tronc là-bas, c'est énorme. Et donc on va avoir ces racines qui vont, si on regarde bien, permettre de faire un support pour maintenir cette partie-là de la plante toujours érigée. Et au fur et à mesure que la plante va avancer, se développer, circuler, cet axe-là va pouvoir faire plusieurs mètres. On va toujours avoir cette partie érigée grâce à ces racines-là qui vont apparaître ici et la plante va coloniser comme ça des espaces de plus en plus importants. C'est une mécanique d'utilisation de ces racines, sachant que les racines ne servent pas qu'à capter des choses, mais parfois à piéger, parfois à s'organiser ou à s'adapter au changement du support sur lequel elles se développent. Et c'est aussi une structure très intéressante, quoi. Donc ici, on a l'équivalent d'une mare ou un cours d'eau assez limpide. Moi, j'ai fréquemment observé des plantes de couleur très très sombre, donc avec des feuilles très très sombres, des herbacées, qui poussent dans des milieux très sombres justement. Donc on observe certaines plantes qui ont les feuilles noires, avec des nervations fuchsia en rose, des nervations jaunes qui explosent. Et c'est vraiment assez remarquable de voir cette hétérogénéité dans la pigmentation des feuilles et il faut imaginer que certainement tout ça est corrélé à une histoire derrière, donc à des interactions avec la faune ou à des adaptations acquises au cours de l'évolution. Chez certaines plantes on observe la face inférieure du limbe qui est rose cette surface là en fait fait office de miroir et va souvent permettre aux feuilles qui le possèdent d'avoir le limbe de la feuille qui est traversé une première fois quand la lumière du soleil arrive sur la surface sur la face supérieure de la feuille et réfléchit par cette surface située sous le limbe et repart. Donc on a une optimisation de la capture de lumière via ce phénomène là.
Je disais il y a des champignons donc dans les sous-bois, mais par rapport aux forêts tempérées à l'automne, on observe très peu les formes fructifiées des champignons globalement en forêt amazonienne. Et ça, c'est parce qu'en fait, souvent, les formes fructifiées, donc c'est des formes de reproduction, et majoritairement, en forêt amazonienne, les champignons se développent sous forme de mycélium qui reste sous terre. Et en fait, ils ont très rarement besoin de produire des carpophores, parce qu'en général, les formes de reproduction, c'est quand il y a, par exemple, besoin d'échapper à des conditions environnementales difficiles. Donc, il va y avoir une production des carpophores et production de spores pour aller coloniser de nouveaux endroits. En forêt tropicale, ça s'observe très peu. Bon, on en observe, hein, mais on va surtout observer les champignons qui vont dégrader le bois, qui vont, eux, pas mal proliférer, par contre, dès qu'il y a des troncs qui sont atteints, qui sont un peu malades. Et donc ça fait partie de toute la cohorte des pathogènes qui peuvent exister en milieu tropical.
qui s'ajoutent aux prédateurs. Donc j'ai pas encore parlé trop de reproduction et de dispersion des graines. Alors la dispersion des graines, c'est quelque chose qui est absolument fondamental en forêt tropicale. Il a été montré que si on prend un arbre seul qui fructifie et que ses fruits tombent au pied de l'arbre, on va avoir un taux de mortalité des graines proche de 100%. Ça, c'est parce qu'en fait, il y a énormément d'insectes en milieu tropical et vous allez avoir notamment énormément d'insectes prédateurs, donc tout ce qui est bruches ou charançons. Et donc c'est un effet d'écologie qui a été montré depuis une quarantaine d'années maintenant, qui s'appelle l'effet Jansen-Connell, qui montre que quand la distance des graines augmente par rapport à l'arbre qui a produit ces graines, le taux de survie de ces graines augmente. C'est-à-dire que plus on est loin de l'arbre, plus on va survivre. Donc, pour pas mal d'espèces, la question est comment faire pour arriver à une dispersion efficace loin de l'arbre et loin des prédateurs potentiels. Donc, il y a de nombreuses espèces qui sont dispersées par les animaux. Donc, vous avez une cohorte de mammifères importante en milieu tropical. Et donc, vous allez avoir de nombreux animaux qui vont disperser. Donc, de nombreuses espèces frugivores, donc des oiseaux, parfois des chauves-souris, souvent des mammifères qui vont... Alors, il y a plusieurs modalités. Une modalité assez classique, c'est que les mammifères vont se nourrir des fruits. Les fruits vont passer à travers tout le tractus intestinal et vont être ensuite déféqués. Et donc, c'est le passage à travers le tractus intestinal et l'estomac et les intestins qui va permettre à la graine de germer. C'est-à-dire que si la graine ne fait pas ce passage obligé, elle ne germera pas. Vous avez également donc de nombreuses espèces qui sont frugivores, donc dispersées plutôt par les oiseaux, pardon. Et donc la dispersion par les oiseaux, ça permet d'atteindre des endroits bien plus éloignés que la dispersion par des mammifères. Alors, en milieu amazonien, il existe, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que jusqu'à il y a environ 10 000 ans, il y avait une faune de méga mammifères proche de la taille des éléphants qu'on a actuellement en Afrique. Cette faune, elle a disparu il y a environ 10 000 ans, notamment à cause du passage d'espèces d'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud. Et donc, ça a entraîné une réduction de la possibilité de dispersion pour de nombreuses espèces. Parce que vous aviez des espèces qui auparavant pouvaient être dispersées sur 2, 3, 4, 10 kilomètres, qui maintenant, puisque leurs espèces... leurs disperseurs principaux ont disparu, ne sont plus dispersés que sur 500 mètres, 100 mètres. Donc ça va entraîner des fortes modifications en termes de dynamisme de l'espèce. C'est-à-dire que là où l'espèce pouvait avant parcourir 10 km, elle ne va plus en parcourir que 500 mètres, donc on va trouver les arbres plus proches les uns des autres. Et ça peut même entraîner des risques d'extinction. Donc il y a une très forte dépendance entre l'espèce et son disperseur. Sur l'île Maurice, donc là on sort un peu de l'Amazonie, mais sur l'île Maurice, il y a une espèce d'arbre dont on pense qu'elle a disparu, enfin elle est en train de disparaître parce que son disperseur principal s'est éteint. Je crois que son disperseur était le dodo et il n'y a plus de dodo, donc l'arbre est en train de disparaître. Donc au niveau de la dispersion permet d'atteindre des nouvelles zones, de coloniser de nouveaux endroits et surtout d'échapper aux prédateurs. Là, on va se rapprocher d'un type de forêt qu'on peut trouver sur les hauteurs. Donc, les hauteurs, suivant les endroits, ça peut être entre 500 et 1000, voire un peu plus d'altitude, qui est la forêt de montagne. Donc, dans les forêts de montagne, on a notamment des forêts dites à brouillard permanent, où il y a tellement d'humidité qui s'accumule avec le relief, que c'est comme, quand ici on se réveille et qu'il y a le brouillard. C'est pareil, mais de manière permanente. Et ces conditions d'humidité, c'est des conditions qui vont énormément favoriser la présence des épiphytes et la présence notamment des fougères arborescentes. Et on a beaucoup d'espèces qui ne vont se développer en fait qu'à des altitudes supérieures à 500 mètres et qu'on ne trouvera pas plus bas parce que les conditions d'humidité
seront pas suffisantes. Donc c'est vrai que nous, quand on va en forêt tropicale, on a un peu l'impression qu'il fait tout le temps très chaud et très humide, avec de l'humidité qui est entre 80 et 100% suivant le moment. Mais malgré cette impression qu'on peut avoir, les plantes, elles, sont très très sensibles aux variations du microclimat. Donc on va progresser un peu. Donc les fougères arborescentes qu'on va trouver, que certains peuvent connaître, notamment aux Antilles, où il y a des très belles forêts avec des fougères de plus de 10 mètres. En Guyane, on a rarement des forêts aussi élevées, mais on peut en observer assez fréquemment dès qu'on monte en altitude ou quand on est dans les zones vraiment très humides. Et donc, je vous ai parlé de des micro-conditions climatiques. Et notamment au niveau des épiphytes, c'est quelque chose qui va totalement conditionner la présence des épiphytes au sein de la forêt et leur distribution. Parce que sur une canopée qui est à 50 mètres de haut, même s'il n'est qu'à 20 mètres, on imagine aisément que les conditions qui vont régner à 50 mètres ne seront pas les mêmes que celles à 40 mètres, que ce ne seront pas les mêmes que celles à 30 mètres. Et donc, en fonction de la tolérance à l'humidité et de l'accès à la lumière que peuvent avoir les espèces, même les espèces épiphytes vont se répartir selon ces strates. Ce qui explique que vous avez des espèces que vous allez pouvoir observer quasiment à portée d'homme, et d'autres que vous ne verrez jamais ou que vous ne trouverez que lorsque vous avez la chance de tomber sur un chablis, puisque ce sont normalement des espèces qui poussent à 25, 30, 40 mètres de haut.
Les cours de botanique du réseau Tella Botanica, un reportage de Mathieu Télène pour l'émission L'eau à la bouche. Merci à Marie Picard, animatrice de ce réseau, Pierre Bonnet, botaniste à l'INRA, et Christophe Giraud, ingénieur agronome. Les pauses musicales de cette eau à la bouche de février 2011 sont extraites de l'album Jour de vent, signé Pierre Diaz et le trio Zéphyr. Mathieu et Adrien vous donnent rendez-vous le mois prochain où nous nous intéresserons aux activités de l'association Hortus, notamment autour d'une conférence de Jean Barreau sur les jardins contemporains dans le cadre d'une série de conférences sur l'histoire des jardins. À très bientôt.